Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie au début du XXe siècle.
Poétesse et universitaire dont nous
amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5 intitulé « Les bourreaux et victimes en mêlent leur récit »,
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
terrible, je vous ai choisi un extrait du chapitre 9 intitulé «
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas. »
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du XXe et du XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Jean Echenoz, né le 26 décembre 1947 à Orange, est un écrivain et romancier français. Lauréat, entre autres récompenses, du prix Médicis 1983 pour Cherokee et du prix Goncourt 1999 pour Je m'en vais. Ses fictions mêlent les références et puisent à l'imaginaire cinématographique. Elles multiplient les temps morts, les lieux, les rencontres, les assemblages improbables, des personnages incongrus quand ils ne sont pas purement chimériques. Il n'hésite pas à dire lui-même qu'il n'est ni un historien, ni un biographe, quand on lui demande pourquoi il utilise la mention « roman » lorsqu'il retrace une vie. Il répond qu'il écrit de la fiction. Il garde ainsi une certaine liberté d'écriture.
S'emparant de la figure bien réelle de l'ingénieur Nikola Tesla, 1856-1943, Jean Echenoz s'octroie d'emblée la liberté d'attribuer aux conditions mouvementées de sa naissance deux conséquences. Une passion pour l'électricité, il mettra effectivement au point le courant alternatif, et un caractère ombrageux. Ainsi se présente donc Gregor, l'alter ego fictif de Tesla, dont Des éclairs raconte l'existence romanesque, laquelle a essentiellement pour cadre les États-Unis, où Gregor émigre alors qu'il a une trentaine d'années. Le cours de sa vie embrassant dès lors un demi-siècle de progrès scientifique incessant.
Lors de la première émission, nous avions lu la naissance de Gregor, ses premiers succès, puis ses premiers échecs aux États-Unis. Voyons la suite. Sept ans se sont écoulés. Gregor est riche, mais c'est un homme seul. À sa manière radicalement orgueilleuse, Gregor est un génial inventeur utopiste, doublé d'un inadapté de la vie.
Sept ans plus tard, Gregor est devenu riche, ou plutôt virtuellement riche. Sa situation et son prestige à la Western Union lui permettent de mener à crédit une vie très confortable.
Assez riche pour avoir ainsi pris ses quartiers au Waldorf Astoria, l'hôtel le plus chic de New York et accessoirement du monde, où il occupe à l'année une grande suite pour célibataires.
Nous sommes en novembre et il devra dîner cette fois plus tôt qu'à l'accoutumée, Westinghouse ayant annoncé sa visite au Waldorf en tout début de soirée.
Le temps de mettre un peu d'ordre, même si tout chez Gregor est toujours très en ordre, et quand deux coups secs sont frappés à la porte, il va aussitôt l'ouvrir.
Monsieur Westinghouse a l'air un peu gêné, contrarié, mal à son aise.
Il semble avoir un peu de mal à trouver ses mots.
Bon, il finit par les trouver, mais les mots se succèdent avec difficulté.
Tout cela ponctué de longs raclements de gorge et de secs reniflements.
Enfin, bref, au fait, voici ce qui se passe.
À l'occasion d'une remise à jour de certains dossiers, les banquiers de Westinghouse viennent de tomber sur le contrat signé il y a plus de 15 ans avec Gregor, et que, dans la joie des affaires aussitôt florissantes, tout le monde avait un peu oublié.
Or, tout a marché infiniment mieux qu'au départ on ne l'imaginait. Ces cinq dernières années, de ces chevaux vapeurs s'est vendue une masse imprévue autant qu'astronomique. Et horrifiés, les banquiers viennent d'établir les droits accumulés actuellement impayés à Gregor.
Ils dépassent à présent 12 millions de dollars.
Il explique donc la situation à Gregor, qu'il écoute gravement jusqu'au bout.
« Monsieur Westinghouse, lui dit-il, vous avez été le seul à croire en moi. Vous m'avez soutenu, vous m'avez aidé. Vous avez bien voulu me donner votre amitié. »
Tout ce que je vous demande à présent, c'est de faire profiter le monde de mon courant alternatif.
Et pour le reste, n'en parlons plus.
On convient donc d'un arrangement selon quoi la Western Union va verser à Gregor une somme forfaitaire de 198 000 dollars pour l'achat complet de tous ses droits.
Il doit savoir ce qu'il fait quand même, et bien sûr qu'il le sait.
Il est le premier à développer l'usage de l'électricité au-delà de ses applications thermiques et éclairantes.
Il est le précurseur de ce qu'on nommera un jour le tout électrique.
Dans les 10 années qui suivent, beaucoup d'idées vont venir tout à la fois, vraiment beaucoup.
Mais sa manie de concevoir sans cesse des choses à vive allure s'oppose à ce qu'il s'arrête sur l'une d'entre elles et s'y attarde.
Il a tort, allant beaucoup trop vite. Il devrait s'arrêter 5 minutes sur l'une d'elles pour la mener à son terme et la développer, l'explorer, d'autant plus qu'il s'agit chaque fois de phénomènes promis à un certain avenir. Jugez-en.
La radio.
Les rayons X.
L'air liquide.
La télécommande.
Les robots.
Le microscope électronique.
L'accélérateur de particules.
L'Internet.
J'en passe.
Or, on sait bien que tout le monde pense toujours la même chose au même instant.
Il en ira ainsi avec Gregor. Les autres vont s'emparer discrètement de ses idées pendant que lui passera sa vie en ébullition.
Mais ça n'est pas le tout de faire bouillir. Il faut aussi décanter, filtrer, sécher, broyer, moudre et analyser.
Compte, pèse, partage.
Gregor n'a jamais le temps de s'occuper de tout ça.
Eux, dans leur coin, vont prendre tout le leur pour mener ses idées à terme, alors que lui, haletant, aura déjà bondi sur autre chose.
Et les dépôts de brevets n'y feront rien, n'empêchant pas plus Röntgen de revendiquer l'invention des rayons X que plus tard Marconi la radio.
Mais il a surtout une préoccupation majeure, échafaudée à partir d'une bobine à électro-aimant, brevet numéro 512 340, qui devrait permettre sans frais la production d'importantes quantités d'énergie, une petite partie de celle-ci suffisant au maintien de son propre fonctionnement.
Énorme idée!
Ce serait le premier jalon de son objectif principal.
Un système permettant de procurer gratuitement de l'énergie libre à tout le monde.
Et si les journaux adorent aussitôt cette idée annonçant que Gregor va électrifier la Terre entière, qu'il vient de trouver le moyen de transmettre une énergie universelle sans que cela ne coûte rien à personne.
On imagine qu'à cette nouvelle, dans les conseils d'administration des compagnies cotées en bourse, les registres comptables s'ouvrent et les visages se ferment.
Les voix s'élèvent pour suggérer de prendre des mesures et proposer qu'on se réunisse pour étudier le cas de ce type de prêt.
Une fois que Gregor sort de son bureau, il avise un pigeon blessé, réfugié sur un coin de trottoir derrière une poubelle, s'y est entraîné comme pour y mourir en paix.
Il recueille délicatement l'animal,
puis l'installe en douceur sous un pan de sa veste, près de son aisselle, comme pour le couver.
Il l'emmène à l'hôtel.
Arrivé dans sa chambre au Waldorf, Gregor, toujours à l'aise avec le bricolage, lui construit d'abord une manière de nid.
Comme Gregor n'est pas mauvais non plus en anatomie, la bête est rafistolée dans la journée.
Une fois de retour dans son laboratoire, ce mardi après-midi, Gregor s'assied sur une chaise, au lieu de se mettre aussitôt à l'ouvrage.
Plus très envie de rien d'un coup. Petit accès de tristesse.
ses yeux flottant ainsi sur le laboratoire, verticalement traversé par un pilier de fonte massif qui, d'étage en étage, soutient tout l'immeuble en colonne vertébrale.
Ses yeux s'arrêtent sur ce pilier qu'il considère longuement.
Puis, traversé par une idée d'expérience, il se lève pour aller fourgonner dans une caisse d'outillage où il finit par trouver ce qu'il cherchait.
Un petit oscillateur électromécanique de sa fabrication, pas plus volumineux qu'un jeu de 52 cartes.
Ayant fixé l'oscillateur à l'aide de sangles sur un flanc du pilier, puis l'ayant déclenché,
Grégor regagne sa chaise où il attend, par curiosité, de voir ce qui pourrait bien se produire.
Or, voici que peu à peu, sous l'effet vibratile de ce dispositif pourtant à première vue bénin, de menues choses disposées çà et là dans le laboratoire entrent une par une en résonance. Il les voit frissonner, puis frémir, les entend murmurer, puis bruire.
La résonance se propageant bientôt aux objets plus volumineux. Les meubles et jusqu'aux appareils entreprennent de s'agiter à leur tour de plus en plus vivement, se dandinant jusqu'à se distordre.
Tous, bientôt, se sont mis à danser.
Grégor, depuis sa chaise, trouve bien intéressant pareil phénomène, ayant tout oublié de son coup de cafard.
À son insu, cette vibration de basse fréquence étant progressivement communiquée au pilier lui-même, celui-ci semble sur le point de sinusoïder, d'abord imperceptiblement.
Rien ne s'oppose dès lors à ce que ce mouvement se transmette au sous-sol, qui grelotte à son tour, avant de gagner l'une après l'autre des structures souterraines de Manhattan.
De manière insensible, puis de plus en plus nette, les immeubles se mettent alentour à trembler, se fendiller, se fendre, leurs vitrages explosant d'abord isolément, puis tous ensemble. Grégor ne s'étant d'abord pas aperçu de l'ampleur du phénomène et saisi d'inquiétude en ressentant l'énorme grondement qui gagne à présent les parois et le plancher du laboratoire.
Tous agitant jusqu'aux images, aux murs qui s'animent dans leur cadre comme autant de petits films projetés jusqu'à ce que l'atmosphère, l'air même paraisse commencer de grogner. Pénible sensation, la menant à mettre un terme à l'expérience.
Quand les policiers font irruption dans son laboratoire, Grégor vient de se résoudre à démolir l'oscillateur d'un coup de marteau.
Et c'est peu de temps après cet événement qu'un beau soir, son laboratoire prend feu.
On est en droit de penser que les expériences de Grégor sont devenues trop dangereuses pour se poursuivre dans une grande ville au milieu d'une foule ingénue.
Nouveau sale coup pour Grégor, qui, dans le doute, mais jamais découragé, prend conseil auprès de son avocat.
Celui-ci suggère plutôt de trouver un autre lieu de travail, plus isolé, plus loin.
Il lui propose d'aller s'installer là-bas, à Colorado Springs, où sa compagnie lui fournira gracieusement le courant.
« Ma foi, dit Grégor, changer d'air, pourquoi pas ?»«
Déménageons !»
Arrivé à Colorado Springs, Grégor descend à l'hôtel Alta Vista.
Cela réglé, un char à bœufs l'emmène en compagnie de ses aides vers le site qu'on lui a réservé.
Le soleil rayonne fort sur le Colorado et de fréquents orages très violents s'y manifestent, produisant même une fois jusqu'à 6000 éclairs dans l'heure. Bientôt construit, son émetteur consiste en une bâtisse en planches carrées, bourrée de bobines et de transformateurs, coiffée d'une manière de donjon, d'où jaillit un long mât métallique surmonté lui-même d'une sphère de cuivre.
Ce mât étant connecté à un puissant oscillateur à haute tension et à haute fréquence, Grégor entreprend donc de simuler des orages.
D'abord discret, puis de plus en plus spectaculaire.
De telles expériences deviennent bientôt fort bruyantes. Tout cela, quoique fort sonore, ne dérange pas trop le voisinage. Mais il arrive qu'une nuit, dans son enthousiasme, Grégor dépasse les bornes et crée un tintamarre exagéré.
Tout dans Colorado Springs, d'un coup, ne dort plus. cependant qu'autour du laboratoire, de longues étincelles jaillissent en strident de chaque objet métallique relié au sol et que dans les pâturages voisins, capturant par les fers des décharges électriques, de placides chevaux de trait se cabrent et s'emballent en écumant, hennissant plus sauvagement qu'à la pensée de l'abattoir, à l'image mentale de l'écarissage.
Tout reprend son calme à Colorado Springs jusqu'à ce que Grigor, une autre nuit, pousse les choses trop loin en tentant d'émettre une onde électrique qui, cette fois, de plus en plus fort et pourquoi gênée, doit faire entrer la Terre elle-même en résonance.
Le phénomène se prolonge quelques minutes en s'amplifiant jusqu'à ce que soudain, tout s'arrête.
Plus un bruit.
Plus de lumière.
Et surtout, plus du tout de courant.
Plus moyen d'allumer la moindre veilleuse.
Colorado Springs s'est remis à faire la gueule à l'inventeur. La presse locale a mal pris le coup de la panne. On le salue moins dans la rue.
Une autre nuit qu'il s'affaire sur son puissant récepteur de radio, Grigor croit percevoir de drôles de bruits paraissant venir d'extrêmement loin, nettement mélodiques et régulièrement rythmés.
Grigor, toujours prompt à s'exalter, les attribue gravement et sans hésiter à des êtres pensants très éloignés, autochtones d'autres planètes.
Vénus ou Mars, au bas mot.
Dotés d'intelligence, voire scientifiquement plus avancés que nous autres, et qui tentent de communiquer avec lui.
Content de cette nouvelle publicité, et d'autant plus las de vivre à la campagne qu'il y est chaque jour plus impopulaire, Grigor décide de rentrer à New York.
On l'attend cependant de pied ferme à New York, les sociétés savantes n'ayant pas digéré le coup des Martiens. Grigor est déconsidéré aux yeux de la communauté scientifique qui l'élève au ciel, écœuré à la seule évocation de son nom.
Mais Grigor s'en fout. La construction de cette nouvelle tour étant maintenant sa première idée, la seconde étant qu'il lui faut trouver l'argent pour ça.
Il s'agit donc maintenant d'un système mondial d'information.
On veut en savoir plus, on l'invite à dîner.
Grigor décide de ne pas s'en tenir là et de frapper plus haut en tâchant de prendre contact avec le plus puissant d'entre eux, le nommé John Pierpont Morgan.
Or, voyez-vous comme les choses se font, l'un des rares à pouvoir fréquenter John Pierpont Morgan hors des sphères bancaires se trouve être aussi un des rares proches de Grigor, Norman Axelrod.
Grigor a repris contact avec Norman dès son retour à New York, mais préférant le revoir en tête-à-tête et dans des lieux publics plutôt que chez lui, car redoutant de revoir Ethel, avec laquelle il entretient un sentiment d'autant plus trouble que réciproque.
Il faut bien un jour aller déjeuner chez eux.
La conversation roule tant bien que mal jusqu'au café, après l'absorption duquel Norman se lève pour aller, dit-il, chercher ses cigares au salon.
Et demande enfin Ethel, vous êtes resté longtemps dans le Colorado?
Eh bien, répond Grigor, un an. Enfin, une petite année.
Et vous ne m'avez pas écrit une seule fois, lui fait-elle observer.
Pardonnez-moi, mais j'étais tellement pris, bredouille Grigor sans chercher à cacher sa mauvaise foi. Mais vous savez, je n'ai fait signe à personne. Et puis, avance-t-il, vous savez bien aussi que je suis un sale type.
Mais moi aussi, dit-elle en souriant, moi aussi je suis un sale type.
Une telle réplique laisse envisager tant de perspectives que Grigor la considère en écarquillant.
Les femmes ne parlent pas comme ça en 1900.
Ethel, si.
Norman reparaît dans la salle à manger, sa boîte de cigares à la main et dans son autre main, une lettre de recommandation pour John Pierpont Morgan.
De tous les financiers que Grigor aura eu l'occasion de rencontrer, John Pierpont Morgan est le plus riche.
Sa devise, pensez beaucoup, parlez très peu, n'écrivez rien.
Anormalement costaud, épaules de pachyderme et regard de python. John Pierpont Morgan préfère aussi qu'on le voie le moins possible. Que son image en tout cas ne circule point.
Nul homme n'a jamais été, ni ne sera jamais doté d'un tel nez.
Nul ne souffrira tant d'un pareil appendice, énorme et violacé.
fendillée de crevasses,
embouteillée de nodules,
parcourue de fissures,
prolongée de pédoncules
et embroussaillée de poils.
Ce sera ce monstre, au demeurant saturé de succès féminin, que Grégor entreprend de séduire en lui faisant miroiter ce monopole.
La possibilité de contrôler toutes les futures stations radiophoniques dans le monde entier.
Cette corde qui manque à l'arc de Morgane et dont l'instinct lui susurre qu'elle peut rapporter gros a tout pour charmer le financier.
D'autant que Grégor sait se montrer éloquent, mais discret.
Car il se garde bien d'indiquer le but réel et pour lui essentiel de sa station d'information.
Outre qu'elle devra servir accessoirement à discuter avec les Martiens, la vocation première de cette station répondra à sa première lubie.
Produire et fournir au monde entier de l'énergie à volonté, disponible à tous et sans frais pour personne.
Mais cet aspect majeur de son projet, mieux vaut donc le garder pour lui.
Pas un mot là-dessus, d'autant qu'à elle seule, l'idée de station d'information va suffire à obtenir les crédits convoités.
150 000 dollars voltigent en 2 secondes depuis les caisses de Morgane vers le compte en banque de Grégor.
Une fois ce contrat signé, puis serré dans un coffre, John Pierpont Morgane, charmé par cette perspective neuve de bénéfices, propose qu'on aille fêter ça en emmenant Grégor boire un verre dans un vaste débit de boissons nommé Tannenbaum Oyster, au coin de l'avenue où se tiennent ses bureaux.
Il arrive ainsi que malgré son peu de soucis de paraître, le financier ne dédaigne pas de se mêler au peuple.
La construction de la tour peut commencer.
Cette tour, voici ce qu'elle doit être selon les plans de Grégor.
Qu'il avait d'abord prévu en forme de beignet, avant de lui préférer celle d'un chapeau de champignon.
L'ensemble aura donc un aspect fongiforme, un peu comme un bolet géant.
Pendant qu'on s'y met, que des ouvriers s'affairent par dizaines, Grégor ne perd pas une minute.
Ubique, on le voit partout à la fois, comme s'il était multiplié par 4.
Chantier,
bureau,
laboratoire,
salon,
sans oublier de mettre en œuvre de nombreux et nouveaux projets de recherche indépendants de sa tour, pareillement à temps plein.
Il consacre ses moments perdus à découvrir et mettre au point diverses choses, rédige simultanément quelques dizaines d'articles et tape lui-même à la machine, sans doute à l'aide de mains de rechange, des demandes de brevets concernant ses nouvelles trouvailles, ainsi que leurs applications pratiques.
Et quand dort-il donc ? On ne sait pas. Peut-être qu'il ne dort pas.
Et quand baise-t-il donc ?
Rien n'indique non plus qu'il se livre à cela. Il n'est pas exclu qu'il lui manque un peu de temps pour être plus de 4 personnes à la fois.
Nul n'oserait d'ailleurs le blâmer de quoi que ce soit, même et surtout pas est-elle, malgré l'intime, quoique elliptique et tacite complicité qui la lie à Grégor. Celui-ci revenant toujours dîner les mardis et vendredis chez les Axelrod.
Or, pendant que s'élève la tour d'où font se lancer les premières expériences de radiotransmission, voici qu'on apprend par la presse en une du Philadelphia Inquirer un événement spectaculaire mais fâcheux.
Un nommé Marconi, Guglielmo de son prénom et natif de Bologne, vient de flanquer par terre tout le projet de Grégor.
Jeune homme au nom léfin et au sourire mélancolique, loin de New York et fort du dépôt de son brevet numéro 7777, ce Marconi proclame sans honte son invention de la radio.
On s'étonne aussitôt que Marconi soit parvenu à ses fins par des moyens si simples.
On s'interroge sur lui.
On ignore qu'il n'a fait qu'user habilement d'un des brevets, le 645576, déposé par Grégor quelques années plus tôt, mais insuffisamment protégé.
L'encre est encore humide sur le papier du Philadelphia Inquirer, qu'il est convoqué d'urgence chez John Pierpont Morgane.
Bon, dit le financier, alors ça ne sert plus à rien votre truc, non ?
Vous avez vu l'autre Italien, là ? Il n'a pas eu besoin, comme vous, de cet énorme machin pour émettre.
Un instant, répond Grégor. Laissez-moi tout vous expliquer.
Il lui faut bien se lancer. Il joue sa dernière carte, s'expliquant et vidant son sac.
Exposant que la radio n'était qu'un des petits intérêts de sa tour monumentale, il en dévoile enfin l'enjeu majeur.
Son projet d'énergie libre.
Morgane n'y sera pas sensible du tout.
N'ayant nullement embrassé le métier de philanthrope, le financier ne montre aucun enthousiasme à l'idée d'acheminer du courant pour des prunes vers des contrées peuplées d'Aïnous, de Moldaves ou de Sénégalais fauchés.
Assurant qu'il garde à Grégor toute sa sympathie et son soutien moral, d'un trait de plume, il coupe tout crédit.
Les travaux d'érection de la tour s'interrompent en un claquement de doigts.
Encore raté.
Si tout le monde peut puiser de l'énergie tant qu'on veut, qu'est-ce que je deviens, moi ?
Comprenez-moi bien, fait valoir Morgane, ça n'allait pas du tout votre système.
Avec tout ça, qui est allé vite comme toute sa vie, Grégor va sur ses 55 ans.
Où est-ce que je vais installer le compteur ?
Arrogant, sûr de lui, Grégor n'a rien changé de ses habitudes, continue de sortir toutes les nuits, s'habille plus que jamais selon les prescriptions des magazines de mode et conserve sa suite au Waldorf.
Or, tout cela coûte cher, alors qu'il est maintenant fauché, endetté, vivant immensément au-dessus de ses moyens et ne menant ce train de vie qu'à crédit.
À part ça, chaque jour à midi pile, il arrive au siège de sa société.
On dirait qu'il perd un peu de son équilibre aussi, car des signes suspects se manifestent.
Même s'il a toujours parlé seul, monologuant sans cesse au cours de ses travaux, les assistantes inquiètes peuvent l'entendre à travers la porte, pourtant capitonnée, pérorer plus que jamais dans ses moments d'orage.
Il semble alors s'adresser aux éclairs eux-mêmes comme à des employés,
des enfants,
des élèves,
des pères, avec une étonnante variété d'intonation.
Mégalomane ou pas, c'est alors qu'il invente une nouvelle turbine.
Turbine, direz-vous, n'est jamais qu'une turbine.
Lui, fidèle à son sens de la nuance, déclare en toute modestie ne voir aucune limite aux applications de sa turbine.
Signe de fin, peut-être, du génie scientifique de Grégor. S'étant trompé dans ses calculs prévisionnels, il lui faut bien convenir que la turbine est beaucoup plus chère à fabriquer que prévu.
Par conséquent, fin de la turbine.
Fin de John Pierpont Morgan également. Qui meurt sur ses entrefaites.
Fin de l'année en tout cas. À l'occasion des fêtes, Grégor adresse donc un courrier de circonstance au fils Morgane.
J'ai terriblement besoin d'argent. Je ne peux en trouver nulle part.
Vous êtes le seul qui puisse me secourir, et tout en implorant votre aide, je vous souhaite un joyeux Noël.
Puis, il se console en allant nourrir les pigeons de Réservoir Park.
Il s'y rend chaque jour maintenant.
Réduisant de plus en plus sa vie mondaine, il semble avoir transféré sur ses oiseaux ignobles, n'ayant rien perdu de son affection pour eux.
Ces moments de fête, Grégor sait bien ce que c'est.
Il n'a plus de goût à rien pendant cette période. Il n'a même plus le moindre avis solide.
S'il ne neige pas, il le regrette et trouve que c'est dommage. Ça aurait été, au moins, tant qu'on y est, fait joli dans le tableau.
Mais si, obéissant à ses regrets, la neige se met alors à tomber,
tout de suite, c'est encore plus dommage, car elle devient aussitôt de la boue.
C'est dans ces dispositions acerbes que, sorti de son hôtel, il s'est mis en marche vers chez les Axelrold.
Accueilli par les souriantes lèvres rouges d'Ethel et au bout du bras de Norman par un Bloody Mary assorti, Grégor se frotte d'abord les mains devant la cheminée, comme on fait dans ce cas-là, avant d'exhiber son étrenne.
Ensuite, on passe à table. Pour un classique dîner de fête.
Les Axelrod offrent à Grégor au dessert, avec leur cadeau, de la part de Norman, une édition reliée en pleine peau de Woodworth, et de celle d'Ethel, une cravate en crêpe de Chine à reflets moirés.
Seul moment qui lui chauffe un peu le cœur, en le raccompagnant dans l'entrée, Ethel, peut-être un peu ivre, lui noue par plaisanterie sa cravate neuve autour du cou.
Malgré son aversion, même avec elle, pour les contacts physiques, et malgré brusque et irrépressible la crainte le traversant un instant qu'elle l'étrangle,
il se surprend à trouver cela plaisant.
Une petite érection, Grégor ?
Allez, pour une fois.
L'année à venir s'annonce délicate.
Il appert que Grégor est bien plus fauché qu'on ne le pensait, qu'il ne l'imaginait lui-même, son comptable ne s'étant jamais risqué à lui en parler.
Ce sera une pauvre affaire d'un pot loco, somme bénigne et sans doute estimée par Grégor indigne de lui, qui produit le fâcheux déclic. La mécanique des procédures le fait se retrouver convoqué au tribunal comme n'importe quel Pékin. Il doit bien revoir aussi un peu son train de vie à la baisse et quitter le Waldorf pour l'hôtel Saint-Rogis, où Grégor s'installe au 14e étage, qui n'est plus divisible par trois. Il ne peut déjà plus imposer tous ses caprices.
Et qui n'est quand même pas si mal non plus.
Moins assidu au bureau et au laboratoire, Grégor va notamment traîner souvent dans le Grand Central, bien que n'ayant jamais aucun train à prendre.
Chaque jour à présent, il retourne à Bryant Park, alimente ses éternelles bestioles.
Le pigeon pourtant. Le pigeon, couard, fourbe, sale, fade, sot, veule, vide, vil, vain.
Saleté de pigeon, même pas bon à manger, écœurant sur son lit de petits pois farineux.
Mais c'est pourtant bien lui qui est en train de devenir le plat favori de Grégor, et bientôt le seul. L'inventeur finissant par se nourrir exclusivement, solitaire dans sa petite chambre, du blanc de l'animal qui borde son bréchet.
C'est qu'en effet, Grégor, maintenant, n'a vraiment plus un sou.
Si Grégor commence dès lors à fréquenter de moins en moins le monde, outre qu'il n'en a plus les moyens, c'est que l'envie même en vient à lui manquer.
La compagnie des hommes, sans parler de celle des femmes, devenant de plus en plus ingrate, ne reste au fond que les pigeons.
Équipé d'une mallette de premiers soins, il arpente sans mollir les rues, les docks, les squares, attentif à ses bêtes et repérant aussitôt les indices alarmants dans leur comportement.
Tristesse.
Amaigrissement.
Toux sifflante.
Arthrite ou boiterie.
Diarrhée et torticolis.
Pour leur porter immédiatement secours sur place.
Puis, naturellement, l'idée lui vient, tant que nous y sommes, de passer du traitement ambulatoire à la prise en charge institutionnelle et de monter une clinique pour pigeons.
Mais sa passion ne se contente pas de ce premier mouvement. Ayant de plus en plus de mal à se séparer de ses patients, Grégor décide de braver le règlement de l'hôtel et d'en garder un petit groupe à demeure dans sa chambre.
Mais très vite, il ne va plus se contenir et les nids vont se multiplier.
Tout cela va se mettre à roucouler fortissimo. De drôles d'odeurs vont commencer de se répandre à l'étage de l'hôtel, les clients entreprennent de se plaindre et la direction du Saint-Régis somme Grégor convoqué de mettre un terme à sa clinique aviaire.
À 70 ans, seul comme toujours dans sa chambre, il vient de s'habiller ce matin.
Bien que ses vêtements soient toujours consciencieusement nets et repassés, ils ne viennent plus de chez les mêmes tailleurs qu'avant, même si Grégor en a conservé quelques-uns du temps de sa splendeur, entretenus avec soin, pour n'être portés que dans les grandes occasions, celles-ci étant de plus en plus rares.
De ses 200 chemises, il ne lui reste par exemple qu'une demi-douzaine. Le reste de ses effets s'étant réduit en proportion.
Ses cheveux, devenus plus rares et gris, il a fini par raser sa moustache quand il a constaté qu'elle restait noire comme ses sourcils, qui ne pensent pas avoir la coquetterie de teindre.
Les premiers mois qui ont suivi son installation au New Yorker, Ethel venait le voir de temps en temps.
Mais bientôt, trop orgueilleux pour supporter qu'elle voie de près les progrès de son déclin, Grégor n'a plus accepté ses visites. Il ne la rencontre plus qu'à l'extérieur, plus précisément dans les squares où elle l'accompagne, se chargeant elle-même d'acheter les sachets de graines, cependant que leur conversation dépérit.
10 ans plus tard, seuls restent les pigeons.
Pas seulement ceux qui sont à domicile, mais toujours ceux de Bryant Park que Grégor va nourrir la nuit tombée de vieilles graines soldées. Comme il patiente sur le trottoir en face des grilles, une bien vieille Duesenberg oxydée, ruinée, presque à l'état d'épave, roule assez lentement, mais semble-t-il sans trop de maîtrise, comme si son conducteur était ivre.
Ce qu'il est.
Alors que cette voiture va passer à hauteur de Grégor, d'un seul coup les pigeons fondent sur elle en troupe de choc et se posent uniment sur son pare-brise, provoquant une embardée de la Duesenberg qui dérape sur une plaque de verglas et monte sur le trottoir en heurtant Grégor qu'elle renverse.
Son chapeau roulé non loin de lui reposant à l'envers sur sa coiffe, Grégor demeure inconscient sur le trottoir, couché seul dans la nuit glaciale.
Grégor ayant gravement pris froid, une pneumonie se déclare.
100 jours de solitude durant lesquels l'esprit de Grégor parfois s'égare.
S'il finit par se remettre du choc, sa santé demeure très fragile, surveillée par une femme de ménage qui vient chaque jour nettoyer sa chambre.
Un matin, resté couché, Grégor demande instamment à cette femme de suspendre à la poignée de la porte en sortant un carton imprimé priant de ne pas déranger.
Malgré le piaillement croissant des oiseaux affamés, affolés dans leur cage tout autour de son lit, on attendra 3 jours avant d'enfreindre la consigne. Triste fin pour un génial inventeur. De ces deux émissions, vous avez entendu des extraits du livre « Des éclairs » de Jean Echenoz. Au revoir.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez